Il est 8h31, vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique et je suis en compagnie, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de César Diaz. César Diaz, bienvenue dans cette émission, ces promesses de l'aube. Merci d'être venu et d'avoir monté toutes ces marches.
Non, merci à toi de m'avoir invité.
Et voilà, César Diaz, on te connaît parce que tu es un réalisateur prolifique et célèbre, réalisateur de Nuestras Madres, un beau film guatémalteco-belge, puisque c'est ce que tu es devenu. Mais si je t'ai invité ici, c'est pas vraiment pour parler de ta filmographie, c'est plutôt parler de ce nouveau venu sur dans le paysage des festivals bruxellois, des festivals de films qui s'appelle Kino Latino. Et donc, on était habitué à un autre festival de cinéma latino. Et là, débarque cette nouveauté. Donc, on est ravis d'avoir découvert cette programmation. Comment, explique-nous un peu comment c'est venu, comment et qui vous êtes d'abord. Enfin, toi et les autres. Il y a Ronny Ramirez aussi qui était supposé venir aujourd'hui, qui a eu un empêchement. Voilà. Ben, raconte-nous un peu tout.
Bah, en fait, l'ancien festival s'est arrêté. Et donc du coup, on s'est dit qu'il y avait un espace, surtout un public qui a envie de regarder des films qui viennent d'Amérique latine, et que il fallait pas perdre, cette l'opportunité de montrer aux Bruxellois des films. Et donc du coup, entre Ronny Ramirez, Nicolas Rincon, Rodrigo Litoriaga, Jackson Elizondo et moi, on s'était dit qu'on pouvait faire un festival sans s'en rendre compte vraiment ce que ça voulait dire. Donc là, je suis crevé parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation. On pense que c'est plus simple, non. Entre les copies, organiser l'événement, des fêtes, parce qu'évidemment, on voulait pas que ça soit juste les films. On voulait qu'il y ait des choses autour, notamment aujourd'hui, par exemple, à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, on organise une vente des livres en espagnol, et ensuite, à 16h, il y a un forum des coproductions entre la Belgique et l'Amérique latine, et puis à 19h, une fête avec Sindicato Sonico et puis Los Cubanistas. Mais bon, et donc, on s'était dit qu'il fallait créer cet endroit. Enfin, et ce qui est chouette, je trouve, c'est que on est quand même un groupe de cinéastes, donc on n'est pas tributaire de un distributeur, des programmateurs, donc on a vraiment mis les films qui nous plaisaient et qui on avait envie de regarder en fait. Et donc tous les films qui sont dans la programmation, c'est des films qui n'ont pas des distributeurs en Belgique. Donc en gros, c'est des films qu'on pourrait pas voir autrement que sur une plateforme de streaming illégale ou en téléchargeant les films aussi illégalement ou enfin voilà. Et donc ce qui nous intéressait, c'était un peu montrer un moment de la cinématographie dans les continents. Et ça nous paraissait intéressant. Et par exemple, là, on s'est rendu compte que les cinémas colombiens, explosent. Enfin, là, on a 3 films. On aurait pu avoir les 10 et ça serait appelé Kino Colombia. Et puis, mais c'était pas le cas. Et, les cinémas colombiens est en train de faire des choses hyper intéressantes. Et puis, il y a des petites pépites, comme par exemple, La Vie d'Ivana, qui est un réalisateur guatémaltèque, mais qui a étudié à Moscou et qui est allé filmer des gens en Sibérie, ce qui me semble intéressant. Enfin, il y a des Belges qui partent filmer les sud du Chili quand Benjamin Culot qui sera avec nous cet après-midi, et il y a aussi des Guatémaltèques qui partent en Sibérie. Donc du coup, aussi il y a cette idée comment le cinéma est un langage universel qui peut fédérer et qui permet à n'importe qui de pouvoir s'émouvoir, se révolter, réfléchir. Et c'était de ça qu'on avait envie, en fait.
Et c'est vrai que en t'entendant parler, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un choix aussi justement du fait que vous êtes tous cinéastes, qui est peut-être ce qu'on pourrait dire plus pointu aussi dans le choix des films, ou plus critique justement sur ce qui est montré. Et votre choix aussi de dire, ben, on choisit des films qui n'ont pas de distributeur, ça veut dire que ces films, vraiment, c'est à ce moment-ci qu'on doit aller les voir, ou on ne les verra jamais.
Exactement.
Entre guillemets. Ce qui n'était pas forcément le cas. Tu évoquais l'autre festival qui existait auparavant, qui est Pellicule Latine, qu'on connaît bien aussi, puisqu'il venait en parler aussi dans cette émission. Mais c'est vrai qu'on sent, en entendant parler, qu'il y avait sans doute une autre optique, une autre vision, et donc que vous voulez vous resserrer, être plus critique, plus est-ce qu'il y a plus, c'est plus du cinéma d'auteur, est-ce que c'est plus, enfin, ce qu'on appelle cinéma d'auteur, comment tu...
Oui, et aussi, je pense que c'est ce qui est difficile avec les festivals, c'est que tu dépends des films qui se réalisent à ces moments-là, enfin, tu vois, t'es quand même... Il y a quand même un contexte, et là, par exemple, on a eu la chance d'avoir des films, effectivement, que c'est des films... C'est des films d'auteur, mais des films d'auteur, c'est compliqué, c'est cette catégorie, parce que par exemple le film de Laura Mora de hier, Los Reyes del Mundo, est un film d'auteur, mais est un film qui est accessible vraiment à tout le monde. C'est un film qui est sur Netflix, Latam, donc juste pour vous dire à quel point il peut être aussi ouvert à tout le monde, quoi. Mais après, il y a des choses qui sont moins accessibles, comme, je sais pas, La Jauría, qui est un film beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus lent, mais qui est aussi, tout aussi intéressant. Donc, on n'avait pas, en plus, on s'était pas mis des limites dans ces choix. On a regardé les films qui existaient, auxquels on avait accès par notre réseau de connaissances et des distributeurs et des vendeurs internationaux. Et c'était vraiment les films qui nous plaisaient, parce que ça réveillait quelque chose chez nous, quoi. Enfin, je sais pas, El Viaje de Hilda, par exemple, qui est un film bolivien. El Visitante, qui est le film bolivien, c'est un film aussi super accessible. L'histoire, elle est toute simple. C'est un mec qui sort de prison et qui doit récupérer sa fille qui a été laissée chez sa belle famille, quoi. Non, c'est presque une telenovela mexicaine, quoi. Mais c'est un film qui pose un point de vue sur cette réalité-là, et qui nous montre, par exemple, un côté de la Bolivie que je ne connaissais pas, dans un milieu évangéliste, hyper riche, et avec des maisons, on dirait qu'on est en Californie, quoi. Donc, du coup, enfin, et ça pose, enfin, pour moi, ça pose des questions, et ça pose des questions surtout sur les regards, sur les points de vue qu'on pose sur cette réalité-là. Et c'est à partir de là qu'on a fait le choix de ces films.
Et justement, d'autres festivals, quand ils racontent comment ils ont sélectionné les films, ils parlent aussi de films qui ont été envoyés. Et donc, est-ce que j'imagine que vous êtes parti plutôt de ce qui existait plutôt que faire un appel à proposition de films?
Non. On avait un appel au film qui était, je pense, jusqu'au mois de mars. Et il y a deux films qu'on a sélectionné, qui sont arrivés et qu'on connaissait absolument pas. Guanyunia, qui est un film très très intéressant, parce que c'est un film à la base, c'est un film militant, très militant, et sur une communauté indienne en Équateur. Et tout d'un coup, au fur et à mesure que ces militants commencent à filmer, ces militants deviennent cinéastes, en fait. Et c'est super beau, non seulement l'histoire, parce que l'histoire de la communauté, elle est riche, elle est forte, mais tu vois aussi le cheminement de cette personne qui, à la base, n'était pas censé devenir cinéaste, et tout d'un coup, il se retrouve à se poser des questions sur les cadres, est-ce que l'interview, comment on construit la narration, les sons, enfin, et moi, je trouve ça super beau. C'est comme un peu la naissance d'un cinéaste en temps réel, quoi. Et Et c'est un film qu'on connaissait, enfin, nous, David Lasse, on le connaissait pas, enfin, il a envoyé son film, en plus, on a eu la chance que, l'ambassade, enfin, le gouvernement équatorien le soutienne, donc, donc il est là, pour en parler de son film. Donc, je trouve que c'est, enfin, on a eu de très belles surprises. Après, effectivement, on a fait appel à des gens qu'on connaissait, qui nous envoyaient des films, d'autres programmateurs, etc. Mais on a eu des belles surprises comme ça, quoi.
Et justement, d'après toi, en écoutant ce que tu dis, je me dis, qu'est-ce qui définit justement un film accessible d'un autre film, et qu'est-ce qui fait que certains films sont jugés accessibles et donc diffusés dans de nombreuses salles, et d'autres justement qui n'ont pas.
Moi, je pense que c'est surtout la place que tu laisses au spectateur, en fait, par rapport à ce que toi tu lui proposes, en fait. C'est dialogue qui s'établit entre celui qui filme et celui qui regarde. Moi, je trouve que ce dialogue, il peut être un dialogue dans lequel tu le prends par la main et tu l'amènes et tu fais les chemins avec lui, ou bien tu ne fais pas cette démarche-là, et donc celui qui regarde doit quand même travailler et puis faire un chemin vers l'autre. Et donc c'est là où j'ai dit qu'il y a des films plus accessibles. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité dans l'un ou dans l'autre. C'est juste la façon dont les dialogues s'établissent où ça change pour moi. Donc il y a des cinéastes qui font les paris de dire, donc voilà, ma narration, mon idée du fil, l'idée de l'histoire, elle est comme ça, et je vais faire aucune concession pour que les spectateurs, ils puissent comprendre, ils puissent faire ce chemin avec moi, parce que je suis en train de réfléchir à cette idée précise. Alors qu'il y a d'autres, enfin, je sais pas, moi par exemple, avec Nuestras Madres, j'avais envie justement de faire ses chemins avec les gens, et donc d'assumer par exemple le fait que l'émotion était présente, que c'était quand même un mélodrame, enfin, et donc du coup c'est un film qui s'ouvre plus au public, alors que par exemple pour parler aussi de films dans le même genre, il y a Marie Jiménez et Bénédicte Lénard par exemple qui font pas du tout ces choix-là, c'est-à-dire Marie et Béné font un film et puis elles sont leurs images en tête, leur son en tête, et puis soit on monte sur ces bateaux et puis on a un plaisir à regarder, soit on est exclu. Et ça veut pas dire qu'il y a pas, enfin, que la qualité n'est pas là, c'est juste une démarche différente, et c'est des films, hein, c'est comme un livre, enfin c'est pas la même chose, je sais pas, lire enfin bref, non, je vais pas faire l'analogie, sinon je vais rentrer dans un terrain trop trop compliqué.
Trop mouvant.
Exactement, le sable est mouvant.
Voilà, et justement, ben je sais pas, en général quand les gens viennent présenter un festival, on dresse un peu le panorama, peut-être jour par jour, ou bien pointer quelques films qui doivent absolument être vus, et nous dire aussi pour les auditeurs, auditrices, où ça va se passer, en fait.
Bah, ça se passe à l'Aventure, au centre-ville, jusqu'à la clôture, où ça sera aux Beaux-Arts. On va clôturer avec Dos Estaciones, qui est un film mexicain. Là, on fera juste cette séance-là. Je pense qu'il y a aussi un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire que... Par contre, il y a quelque chose qui moi aussi me frappe, c'est que quand on fait une sorte de... Cette radiographie du cinéma, ben y a pas beaucoup d'espoir non plus, hein. Donc c'est un peu et ça correspond un peu à la vision du monde qu'on a en ce moment. Donc c'est des films durs, c'est des films où les personnages souffrent, c'est des films qui se terminent pas forcément bien. Donc et je pense que ça fait partie aussi de ce qui est en train de se passer en Amérique latine, que ça soit en Colombie, en Bolivie, en Équateur, au Mexique, enfin, on est confronté quand même à une énorme violence, et je pense que Ça, il y a un reflet de ça dans presque tous les films. Et l'autre chose, c'est je pense que la découverte de la sexualité ou ces rapports à la sexualité, quand on découvre que est-ce qu'on aime les filles, est-ce qu'on aime les garçons, enfin qu'est-ce que c'est aussi présent en fait dans certains films. Et ça m'a frappé aussi, de comment c'était, enfin pour qu'on les voyait. Alors qu'est-ce que,
mais juste ouais. Puisque j'y pense en t'écoutant parler, est-ce que vous avez fait attention aussi à équilibrer
non, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire que enfin oui non, mais par exemple il y a des films plus tendres, plus comme les voyages de Hilda, qui est un film uruguayen sur une femme qui est architecte d'intérieur, qui découvre un peu que son mari la trompe, mais par exemple qu'il y a une rupture des styles à la moitié du film, c'est comme si on rentrait dans un autre film. Et ça nous semblait intéressant. J'aurais été vraiment ravi d'en parler avec les réalisateurs, parce que c'est vraiment super intéressant comment au milieu du film tout d'un coup il y a même un changement de format, un changement de couleur, enfin un parti pris esthétique qui casse complètement le film. Alors Wanyunya est un film très très intéressant sur justement cette communauté, enfin La Civile, je sais pas si La Civile est un film qui est déjà sorti. Est un film de Théodora qui vit en Belgique, qui est aussi un film très très fort, un film mexicain sur une femme où sa fille est kidnappée par les cartels. Moi en fait, mon coup de cœur, pour être honnête, pour moi c'est La Vie d'Ivana, parce que je trouve ça les regards que Renato pose sur cette famille en Sibérie est très très fort. On a l'impression de revenir, je sais pas, 100 ans arrière et commencer à regarder Nanook l'Esquimau, quoi. Enfin, c'est vraiment étonnant, et je pense que ça vient justement de son école russe, tu vois. Moi je les connais, mais je les connais de loin, parce que un Guatémaltèque qui part étudier le cinéma à Moscou, c'est pas anodin, quoi. Donc le mec, il a appris le russe, enfin tout d'un coup il est rempli de ces images, et je pense que ça contribue aussi à que son film ait cette forme là.
Et du coup je pense pas qu'on l'ait précisé, il y a à la fois des fictions et des documentaires. Et ici, voilà. La Vie d'Ivana, c'est un documentaire.
Il y a 5 fictions et 5 documentaires, des films en compétition. Donc, les centres Salvador Allende va donner un prix pour les meilleurs documentaires, et on donnera un prix pour les meilleures fictions. Il y a autre chose qui peut être intéressante, c'est que on va faire un tirage au sort dans les publics de 2 billets d'avion pour l'Amérique latine. Donc il faut venir, il faut remplir les petits papiers, et puis pour avoir les votes du public aussi, et les 31 aux Beaux-Arts, on fera un tirage au sort de 2 billets d'avion. Donc et puis je pense qu'il y a un autre film qui est très fort, c'est la Anel 69, qui est aussi un documentaire colombien. C'est un ovni. Enfin, il y a des. On rentre dans un monde particulier, et puis je saurais pas décrire même les sentiments que j'ai eus en regardant le film, parce que il y a quelque chose d'étrange, et en même temps c'est un film qui nous colle à la peau pendant des jours après. Je repense aux images, donc je pense que c'est cette expérience-là que je voulais partager finalement avec le public, c'est-à-dire l'expérience que tu vois avec en regardant les films, tu dis mais et si on voyait ça en grand écran avec des gens et qu'on pouvait en parler après. C'est pour ça qu'on fait ce festival finalement, parce que on avait envie de ça en fait.
Et justement, vous prévoyez des séances avec des invités. Il y en a quelques-unes où les réalisateurs réalisatrices seront là. Est-ce qu'il y a d'autres moments conviviaux qui sont prévus?
Aujourd'hui la fête à la Maison du Peuple où vous pouvez rencontrer aussi David Lasso qui est venu d'Équateur et Renato Boraio qui est venu de Géorgie, il est pas en Russie en ce moment. Et après il y a la clôture, c'est-à-dire la séance au Beaux-Arts et le tirage au sort et puis la remise des prix, on ira au Café Nouveau. Sur la place, je l'appelle la place Jacques Brel, mais c'est pas celle-là.
Des vieilles
blés.
Place de la vieille à l'aube.
Voilà, merci Zoé. Je l'appelle place Jacques Brel, mais bon, c'est au Café Novo. On fera une mini fête pour remercier tout le monde, remercier le public, et on pourra, enfin, et donc, juste pour rencontrer les réalisateurs, les 29 et 30 à l'aventure, il y aura Renato. Les 29 c'est à 19h30, les 30 c'est à 19h, et ensuite David sera là les 25, c'est-à-dire demain à 19h et les 27 à 21h30. Et tout ça se passe à l'aventure et je tiens à les remercier parce qu'ils ont été super, même si nous on a été super en retard avec les copies et qu'ils travaillent d'arrache-pied pour que tout ça se passe bien.
Et du coup, est-ce qu'il y a les prix d'entrée? Est-ce qu'il y a un pass pour tout? Est-ce que c'est gratuit?
Non, il y a pas. On aurait bien voulu. Non, mais on est dans les prix du cinéma. Okay. Ça coûte la même chose qu'une place de ciné, avec les mêmes réductions que d'habitude. C'est-à-dire okay. l'article 27.
Le pass Cinéville.
C'est exactement la même chose qu'une place de ciné. On réfléchit pour l'année prochaine pour faire des passes pour qu'on puisse voir tous les films d'un coup. Mais là, honnêtement, on a appris, sur le tard, comment on fait un festival. Ouais. En fait, nous, on voulait juste partager des films et tout d'un coup, il y a toute une organisation qui nous est tombée dessus. Et on essaie de faire au mieux, mais. Ouais.
Et justement, en allant sur le site kinolatino.be, on a l'impression aussi que vous avez d'autres activités, que c'est une association, que c'est...
C'est une ASBL qui fait... l'idée, c'est encore une fois partager des films, partager un peu la musique, partager... Donc, on a fait une kinopeña au Piano Fabrique. Il y a deux semaines, on a envie de faire un ciné-club au Centre culturel Jacques Franck. Donc une fois par mois, programmer un film et puis discuter avec les gens après le film, ce qui nous semble essentiel parce que je trouve que justement ce dialogue est important à une époque dans laquelle où on a été habitué à regarder des films chez nous dans un petit écran tout seul et à faire pause parce que on a envie de faire pipi, aller regarder son téléphone et manger un bol de cornflakes quoi. Le fait de vraiment s'installer dans une salle de ciné avec des gens et après pouvoir en parler et pouvoir en discuter, cette rencontre là je pense que pour nous est devenue essentielle parce qu'elle nous manque finalement. Et donc une fois par mois on va faire on va programmer un film au Centre culturel Jacques Franck. On a avec la même association on a amené à animer un atelier d'éducation à l'image et réalisation d'un film Maison des jeunes à Namur. Donc, on est en train de faire plein de petites choses tout autour du cinéma. En fait, on essaie de combiner les meilleurs de deux mondes, c'est-à-dire les milieux associatifs et les milieux cinématographiques, et essayer de faire un mix des deux, et tirer les mieux des deux mondes, c'est-à-dire parce qu'on a quand même on a quand même envie de d'avoir une sorte de conscience sociale derrière tout ça. Si vous voyez la sélection des films, elle est pas anodine. Enfin, on vous a pas mis des comédies romantiques, des bourgeois mexicains. Donc voilà. Donc on avait envie de faire les mieux des deux.
Le mieux des deux. Eh bien, on souhaite longue vie à Kino Latino et au festival. Et donc, ça commence. On vous invite dès 14h à la Maison du Peuple à Saint-Gilles, donc parvis de Saint-Gilles, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Numéro 37.
Et puis, dès demain, à l'aventure pour toute une série de films. Et donc, le site sur lequel on peut retrouver toute la programmation, c'est www.kinolatino.be, Kino Latino avec un K, bien sûr. Merci César d'être venu de grand matin et j'espère un de ces soirs pour un de ces films et aussi par la suite pour ces séances de partage autour du cinéma latino-américain. Nous, on va se quitter en musique tout de suite après. Eh bien, c'est comme tous les mercredis, Radio Mukambo avec un spécial Urban Exotica, et puis les oraux et la poésie alors consacrée aux fêlures de l'expérience, culture prohibée à 13h, puis mercredi, la vie électrique et culture Wild Station. Il y a aussi des concours, des places à remporter pour différentes séances de cinéma, notamment pour le cinéma Nova. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec quoi donc? Eh bien, je vous propose d'écouter Yola Tengo avec Somebody's in Love. À la semaine prochaine.